France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Jusqu'à sa disparition en 2001, Jérôme Lindon aura dirigé pendant plus de 50 ans les éditions de Minuit. Dans cette maison, née de l'esprit de résistance dans une France occupée, dans laquelle il était entré au lendemain de la guerre comme stagiaire à la fabrication, Jérôme Lindon aura écrit l'une des histoires les plus glorieuses et les plus libres de l'histoire de la littérature et de l'édition française. Une histoire qui se poursuit après lui. En 1994, dans le deuxième des 5 entretiens d'avoinu qu'il accordait à Jean-Maurice de Montrémy, Jérôme Lindon relatait ce que furent les premières années de la deuxième existence des éditions de Minuit. C'était après le temps de la résistance quand, en 1948, après le départ de Vercors, il en devint lui-même le dirigeant à 23 ans, alors que l'entreprise battait de l'aile. Dans le deuxième volet de cette série, Jérôme Lindon décrivait comment, avec Georges Lambrix, puis avec Alain Robbe-Grillet, il réussit alors à faire des éditions de Minuit une véritable maison d'édition dont le moment fondateur était sans conteste pour lui l'arrivée de Samuel Beckett au tout début des années 50. Des années qui allaient être celles des auteurs étiquetés Nouveau Roman, Robbe-Grillet, Butor, Sarraute, Pinget, Simon, pour ne citer que les plus célèbres. À voix nue, Jérôme Lindon, deuxième entretien, diffusé la première fois le 18 octobre 1994 sur France Culture.
À voix nue.
Jérôme Lindon s'entretient avec Jean-Maurice de Montrémy. Deuxième entretien.
Jérôme Lindon, nous avons fait connaissance dans la précédente émission d'un jeune homme qui aimait la fabrication du livre, qui également s'est intéressé à l'actualité au point même de s'engager dans la résistance, qui était, paraît-il, un peu paresseux et qui le serait resté. Bref, c'est ce jeune homme qui, âgé de 21 ans, a commencé aux éditions de Minuit. Alors, vous avez commencé aux éditions de Minuit dans une maison qui était très profondément marquée par une littérature de résistance. Alors, à l'époque, bien sûr, vous ne vous intéressiez pas vraiment à la vie littéraire de la maison, mais ça a dû très vite vous poser quelques questions.
La résistance, j'en sortais, donc je me sentais très à l'aise, effectivement. Et puis, je vous dis, au départ, je n'envisageais pas d'être autre chose qu'à la fabrication. Et puis, pour une série de raisons qui seraient trop longues d'exposer ici, finalement, Vercors a choisi de quitter les éditions de Minuit. Et nous sommes restés, Georges Lambrix et moi, donc seuls dans cette maison. Et Georges Lambrix, qui était un garçon extrêmement fin et qui, lui, s'intéressait tout à fait à la littérature, m'a beaucoup appris, j'ai beaucoup appris à son contact, à côté de lui. Et Georges avait d'excellents rapports avec Jean Paulhan, de sorte que les éditions...
C'était un autre univers tout de même, c'était donc les éditions Gallimard, la Nouvelle Revue Française.
Ouais, que je ne connaissais pas du tout, mais que lui connaissait. Et par Jean Paulhan, les éditions de Minuit ont été amenées à publier un certain nombre d'ouvrages, d'auteurs de chez Gallimard, mais que Gallimard ne voulait pas publier les ouvrages en question. Ça a été Georges Bataille, Maurice Blanchot, Pierre Klossowski, ou en littérature... André Dautel, Henri Calais, Henri Thomas.
Tout de même de l'assez bon choix, en règle générale.
Oui, c'était des très bons auteurs. Et donc, nous avons publié pendant une période la résistance étant terminée aux éditions de Minuit, il y a eu cette période intermédiaire où, je dis la résistance était terminée parce que les auteurs de la résistance n'étaient plus là. Ils ont quitté les éditions de Minuit dès la libération. Il n'y a pratiquement que Vercors qui soit resté en tant qu'éditeur, mais en tant qu'auteur. Et quand Vercors est parti, effectivement, il ne restait plus rien. Ou très peu de choses de cette époque. Donc il y a eu une courte période de quelques années où, grâce à Jean Paulhan et Georges Lambrix, les éditions de Minuit ont publié de bons livres, et souvent des livres qui sont toujours au catalogue des éditions de Minuit, pas tous, mais certains, d'auteurs en quelque sorte recalés pour ce livre-là, en tout cas chez Gallimard. Et puis la période suivante a commencé quand nous avons reçu les manuscrits de Samuel Beckett.
Donc c'est vraiment l'arrivée, donc on l'a dit dans cette précédente émission, c'est l'arrivée de Beckett qui a tout changé. Est-ce que vous aviez tout de même, dès ces années-là, donc on est en 1946-47, est-ce que vous étiez en train de vous poser des questions sur ce que devait être une maison d'édition ?
Oui, je savais qu'on n'en était pas une. Je me disais que...
Comment ça, vous n'en étiez pas une ?
Pas vraiment. Vous comprenez, je me disais, bon, c'est très bien d'éditer Georges Bataille ou Maurice Blanchot, mais enfin, disons, on n'a pas besoin de moi pour le faire. Et tout le monde, d'abord, Gallimard les avait publiés bien avant nous. Je n'avais pas du tout le sentiment d'innover en quoi que ce soit. Et je me disais souvent, je lis Faulkner ou je lis Kafka, etc. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ses œuvres. Mais en fait, les livres que je lis, c'est des livres qui paraissent sous la couverture prestigieuse de Gallimard, qui me sont présentés dès l'abord comme des grands écrivains. Et qu'est-ce que je dirais si c'était un manuscrit d'un inconnu, Le Château ou Lumière Doux? Qu'est-ce que j'aurais dit en face de ça? Et je me posais en effet cette question de savoir ce que je ferais en face d'un texte qui arrive. Et puis, pour moi, ça a été... Molloy a été ce déclencheur. Tout à coup, je me suis dit deux choses. D'une part, que c'était évident que c'était une grande œuvre, dès la première seconde, dès la première phrase, dès la première ligne, je suis dans la chambre de ma mère, c'est moi qui y vis maintenant, etc. Ça se sentait dans l'immédiat, pour moi, la même impression que je croyais avoir déjà éprouvée avec, comme je vous dis, des livres de Faulkner ou de Kafka, par exemple. Et deuxième impression, correspondant à la première, enfin immédiate aussi, c'est comment se fait-il que c'est un écrivain aussi évident que celui-ci, et puis passer à travers tous les cribles de l'édition française. J'ai su après qu'il y avait eu 27 éditeurs qui avaient eu les œuvres de Beckett et qu'aucun ne les avait retenues. Et ça a été donc doublement déterminant, parce que je me suis dit, si vraiment... D'abord, je me suis rendu compte que je pouvais éprouver ce sentiment de...
Vous n'étiez pas sûr de savoir le reconnaître le jour venu. C'est-à-dire, vous attendiez l'illumination, sauriez-vous la voir.
Ouais. On ne peut pas savoir avant que ça arrive. Alors, d'une part, il y a ça. Et puis, deuxièmement, je me suis dit, comment se fait-il, en effet, que l'édition française ne soit pas en mesure de publier un écrivain comme Beckett quand il se présente? Et donc, effectivement, j'ai eu... peut-être à partir de là, le sentiment, un, que je pouvais être éditeur, et deuxièmement, que même ça pouvait avoir un intérêt que je le sois, puisque je comblais en quelque sorte un certain vide.
Donc ce virus de l'éditeur est tout de même beaucoup plus proche de la littérature que des idées. On aurait très bien pu imaginer, vouliant un peu imposer votre marque, créer un peu votre maison, que vous ayez été chercher, je ne sais pas, un essayiste politique brillant ou un grand pamphlétaire qui aurait fait parler la maison, ou même plus jeune.
J'ai jamais été capable de chercher qui que ce soit. Je veux dire, je n'ai jamais été, ce qui d'ailleurs me fait plutôt bien voir de beaucoup de mes confrères, au moins j'aurais jamais piqué un seul auteur. Je veux dire, autant j'essaye d'être réceptif quand je reçois un manuscrit ou quand c'est un auteur vient me voir, mais c'est assez rare, un auteur d'une autre maison, ça n'arrive presque jamais. Autant, je vous dis, je n'aurais pas l'idée, même quand j'aime beaucoup ce qu'il fait, d'aller demander à un auteur publié au Seuil ou à Gallimard ou ailleurs de donner un livre aux éditions de Minuit. Parce que, bon, je trouve qu'il est très bien là où il est. Et puis, il me paraît normal que ce soit l'éditeur qui l'ait vu naître qui continue de le publier.
Alors, je pense à ses débuts, donc dans les années 48-50. C'était même l'époque des très grands polémistes. Il y avait Sartre, il y avait Camus. Georges Lambrix, une fois, a dit « Nous avons travaillé à cette époque-là comme si Sartre et Camus n'existaient pas. » Alors, est-ce que c'est vrai?
Oui, enfin, bon, en effet, j'étais... je veux dire, bon, ils existaient mais pour nous, mais comme nous les lisions, mais effectivement, ça n'entrait pas dans... Bon, est évident que la conception de Georges Lambrix était très éloignée de celle de Sartre et de Camus. savez, comme je vous l'ai dit, on avait des manuscrits qui arrivaient, on ne se posait pas de questions de savoir s'il fallait publier les autres. La question se posait sur ceux qu'on avait entre les mains.
Ah, mais il y a une chose très sûre, c'est qu'il y a un moment où vous avez le virus littéraire. Vous avez dit Faulkner, c'est en lisant Faulkner, vous avez découvert un type de phrase, un type d'écriture. Et ça vous a peut-être que du coup Beckett vous a plu parce que le grand pamphlétaire de l'époque, s'il vous avait envoyé son manuscrit, ça ne vous aurait pas plu.
Bon, j'en sais rien. Vous savez, Georges Lambrix, je le trouve bien imprudent quand il dit nous faisions comme s'il n'existait pas. Si on avait eu qu'est-ce qui serait passé si Albert Camus nous avait présenté un manuscrit? Je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Moi, je ne suis pas du tout certain qu'on ne l'aurait pas publié. Non, ça, il se trouve que c'est la fable des raisins et du renard. Je veux dire, dans la mesure où on n'avait pas les manuscrits, on pouvait se permettre de les négliger. Mais en fait, si on les avait eus, on aurait peut-être été très content de les publier.
Alors, Beckett, donc cette fascination pour Beckett, cette fascination pour Faulkner ne sont pas nées chez vous d'une réflexion sur l'histoire de la littérature? C'était presque viscéral?
Viscéral, je ne sais pas. Simplement, je veux dire, vous savez, encore une fois, on est ce que les autres font de vous. Moi, j'ai eu des parents, j'ai eu des professeurs, j'ai eu la chance d'avoir aux éditions de Minuit, avec Georges Lambrix, avec Alain Robbe-Grillet, des gens qui m'ont, même s'ils n'étaient pas mes professeurs, qui m'ont appris beaucoup de choses. Je suis assez réceptif, sans doute. Enfin, je crois, j'espère. Mais intuition, on n'a pas d'intuition, rien ne sort du néant. Je veux dire, on est ce que vous a façonné la vie. Je trouve que je ne vais pas vous raconter toute mon existence, mais il faudrait que j'ai fait d'autres choses que même la résistance. Pendant, par exemple, 2 ans, j'ai fait de l'agriculture dans des mouvements qui étaient très... où on lisait beaucoup. On faisait de l'agriculture et on avait aussi une initiation à la lecture, enfin, par l'ambiance qui régnait. Bon, il se trouve que j'ai connu Faulkner par hasard, peut-être, et puis j'aurais pu ne pas le connaître, je veux dire. Non...
Ça n'était pas chez vous, disons, une révolte ou un désintérêt pour la mode littéraire un peu académique française qui avait été marquée par le roman un peu social, le roman psychologique, on peut dire le roman encore d'avant-guerre.
C'est aussi celui-là, enfin je ne sais pas, mais non, je... Bon, il y a un moment où, comme je vous l'ai dit avec Beckett, j'ai eu l'impression que j'avais peut-être un petit rôle à jouer puisque personne ne voulait le jouer. C'est peut-être ça qui m'a incité aussi à écarter le reste à partir de ce moment-là. C'est vrai. À partir d'un certain moment, et nous avons incontestablement, comme disait Georges Lambrix, fait le vide un peu et on a continué. Par exemple, en 1957, les éditions de Minuit n'ont publié que très peu de livres, comme chaque année, mais c'était La modification de Buteur, La jalousie de Robbe-Grillet, Fin de partie de Beckett, Tropisme de Nathalie Sarraute, Le vent de Claude Simon, Moderato cantabile de Marguerite Duras, et Graal Phoebus de Pinget. Enfin, en gros, c'est sur 14 mois.
Vous n'avez pas gâché le papier cette année-là?
Eh bien, il n'y avait pas un autre livre que ça, et c'est peut-être surtout ça qui est intéressant, c'était qu'il n'y avait pas d'autre livre que ça dans la maison.
C'est bien, vous avez pris que ce que vous aviez d'une certaine
façon.
Voilà,
mais j'espère qu'aujourd'hui, on essaye de faire la même chose. Et nous sommes très souvent amenés aujourd'hui à refuser de publier des livres qui sont intéressants, qui sont tout à fait publiables, mais qui ne sont pas tout à fait à leur place aux éditions de Minuit.
On va revenir sur votre rôle d'éditeur qui consiste à faire lire les gens. Donc vous avez chez vous, maintenant, ça y est, il est arrivé, Samuel Beckett, en 1951. Alors que faire? Comment le faire lire?
Ben, ça a été très facile. En réalité, c'est un des rares.
C'est un des métiers les plus faciles au monde.
Non, pas toujours. Mais là, bizarrement, le cas de Sam, ça a été exceptionnel. Il a eu une presse énorme sur Molloy, tout de suite. Ce qui n'a pas été le cas pour de tas d'autres écrivains, comme Robbe-Grillet, comme Nathalie Sarraute, comme Marguerite Duras. Enfin, ben, pratiquement, c'est le seul qui, du premier coup... Bon, il faut croire qu'il y avait que c'était dans l'air, sans doute. Du premier coup, il y a eu une presse. Bon, ça n'a pas été un succès de librairie formidable, mais il y a une presse considérable. Et donc, de ce point de vue-là, le pari a été gagné tout de suite, alors qu'on ne s'y attendait pas, effectivement. Alors que, par exemple, Roger Blin essayait depuis des années de faire jouer la pièce En attendant Godot, il n'y arrivait pas. Et la pièce n'a été jouée que l'année suivante. Bon, et puis a commencé avec Samuel Beckett. On commençait des relations qui ne se sont éteintes qu'avec sa mort, qui étaient des relations à la fois d'auteur à éditeur, mais aussi de presque de père à fils, et presque de, et en tout cas de grande affection.
C'est donc lui le fondateur des éditions de Minuit.
D'une certaine façon, oui. C'est pas un hasard si sur notre catalogue figurent toujours les deux petits bonshommes dans En attendant Godot. Parce que je pense qu'en effet, vous avez parfaitement résumé la situation en disant que d'une certaine façon, oui, c'est le fondateur des éditions de Minuit. Et je lui suis, à ce titre, côté de beaucoup d'autres, infiniment reconnaissant.
Donc on ne peut pas dire que vous ayez eu avec lui la relation que vous entretenez, disons, avec la plupart de vos auteurs, cette fois-ci, avec Samuel Beckett.
Je ne me sens qu'un sentiment de gratitude à l'égard des gens qui confient aux éditions de Menuhin un manuscrit et qui me font la grâce, en quelque sorte, de me faire leur éditeur. Et c'est vrai pour des garçons de 30 ans aujourd'hui, ou des garçons ou des filles. Enfin, j'ai ce sentiment de reconnaissance.
Je pense ce rôle un peu de, j'allais dire, d'aide, d'accompagnement, peut-être en même temps d'intervention. Vous l'avez mis au point, enfin, ça s'est mis au point au fil des années, ou vous vous êtes aperçu assez vite, par exemple, qu'il ne fallait peut-être pas rentrer trop dans l'intimité d'un écrivain, trop se lier aussi, ça peut être dangereux.
Oui. Bah, ce dont on peut plus, parce qu'il y a un moment, effectivement, vous le disiez, il y a des écrivains qui attendent de leur éditeur qu'il soit, en quelque sorte, leur psychanalyste. Ça, je suis pas capable de le faire, et j'ai pas le temps de le faire. En fait, on a quand même pas un temps fou. Alors, effectivement, on est obligé de prendre souvent ces distances. Et c'est dangereux parce qu'effectivement, un auteur attend de... Vous comprenez, je ne sais plus qui disait que les rapports entre auteur et éditeur étaient des rapports conjugaux, mais qu'en réalité, ils sont d'un côté polygames, c'est-à-dire que l'éditeur a des quantités d'auteurs, et de l'autre côté, il exige de ses auteurs qu'ils soient monogames et qu'il n'ait qu'un éditeur. C'est tout à fait injuste, effectivement, et ça a créé forcément des troubles. Mais c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Enfin, on ne peut pas faire autrement. Et c'est vrai que nous sommes jaloux, comme éditeur, enfin certains éditeurs, en tout cas maintenant ça l'est moins, mais enfin moi j'appartiens à...
Vous êtes jaloux?
Moi oui.
Ah bon?
De ce point de vue, oui, je dois dire que quand j'ai le sentiment qu'un auteur aux éditions de Minuit, normalement il doit y rester toute sa vie.
Oui, je vais prendre un cas douloureux sur lequel on... Ouais. Pas forcément de tout dire, mais vous avez en effet longtemps poussé, fait connaître, publié sans doute le meilleur de Marguerite Duras, et puis elle est partie.
Non, c'est injuste, là aussi, pour Gallimard. En réalité, Gallimard a publié tous les premiers livres de Marguerite Duras, à commencer par des chefs-d'œuvre comme Le ravissement de Levestein, que je tiens pour un des plus grands livres de la littérature moderne. J'ai eu la chance, moi, de connaître Marguerite Duras, en dehors de Moderato, que nous avons publié, comme je vous l'ai dit, en 57-58, et puis de Détruire, dit-elle, en 69. On est devenu l'éditeur de Marguerite Duras qu'en 77, pendant jusqu'en 80, enfin une dizaine d'années peut-être. Et puis ensuite, elle est retournée chez Gallimard, effectivement. Mais enfin, là, j'aurais eu mauvaise grâce à le lui reprocher, puisque elle avait fait le chemin inverse auparavant.
Non, c'est d'ailleurs un cas assez rare d'avoir un écrivain ayant une œuvre importante derrière lui, disons longue, importante, et déjà constituée, qui vient aux éditions de Minuit.
Oui, c'est le seul cas, oui. C'est pour ça que je suis également très reconnaissant à Marguerite Duras, peut-être plus qu'à aucun autre auteur, car elle a fait un chemin probablement très difficile et en effet inouï, comme vous dites. Il n'y a qu'un seul auteur dans ce cas, d'autant plus méritoire, si je puis dire, que ce n'est pas moi qui ai été la chercher. Elle a même dû se battre pour nous donner Moderato Cantabile au départ, parce qu'à l'époque, Claude Gallimard n'y tenait pas tellement. Et donc...
Et saviez-vous ce qu'elle venait chercher, là, lorsqu'un auteur est venu chez vous? Un auteur surtout déjà consacré qui vient chez vous.
Je crois le savoir, mais disons que je préférerais que ce soit à elle de le dire.
Et par ailleurs, pour d'autres auteurs, disons, dans les auteurs reconnus, qui éventuellement vous feraient signe, disons, on voudrait bien venir chez vous.
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas?
Ben non.
C'est fantastique. Alors, donc, vous prenez simplement les nouveaux venus et vous n'êtes pas encombré par les vieilles gloires.
Vieille gloire, comme vous y allez. Non, je veux dire, il y a les auteurs qui sont édités dans les grandes maisons sont satisfaits d'être là, et je vois pas pourquoi, en effet. Ou alors, il y a quelques auteurs, mais c'est pas ceux que je connais en général, qui peuvent changer d'éditeur pour des raisons purement pécuniaires, si vous voulez, mais alors ils vont pas aux éditions de Minuit.
Alors je reviens à une autre rencontre importante que vous avez faite également, et je crois que lui, il est aussi resté un ami, durablement, c'est Alain Robbe-Grillet, donc il arrive également dans ces années 1950, tout jeune. Ouais. Aux éditions de Minuit.
53, ouais. C'est le deuxième auteur après Samuel Beckett de cette génération, en effet. Et nous sommes restés très amis, en effet. Nous sommes plutôt de la même génération, alors que Samuel Beckett était plus âgé que nous. Et Alain est d'abord été un ami, ensuite il a été un co-éditeur, en quelque sorte. Après Georges Lambrix, il est devenu lecteur aux éditions de Minuit. Puis bon, il n'est plus maintenant lecteur, mais il est resté ami.
Alors auteur. Comment s'établissaient donc les relations entre l'éditeur, c'est-à-dire vous, Jérôme Lindon, qui aviez donc aussi des décisions financières à prendre, et le lecteur, sachant que vous êtes extrêmement proche de tous vos livres et que vous les avez tous lus? Oui, contrairement mais à d'autres éditeurs.
On n'a jamais eu de conflit, on n'a jamais eu de divergence sur des choix. D'ailleurs, je me dis, d'une façon générale, je dois être très souple, parce que je n'ai jamais eu de problème de ce type, ni avec Georges Lambrix, ni avec Alain Aubrier, ni aujourd'hui avec Irène. Je me sens tout à fait à l'aise dans leurs choix, qui se trouvent être en fait les miens. Et dans le cas d'Alain, ça a été tout simple. Alain a pris des tas d'initiatives sur le plan notamment, disons, des relations publiques que j'aurais été incapable de prendre. Il a été pour beaucoup, sinon pour l'essentiel, dans la création du mythe, en tout cas, disons, du concept du nouveau roman. Et donc, à ce titre aussi, je suis très reconnaissant.
Parce que c'est l'autre aspect dont on aurait pu penser que vous le maîtrisiez peut-être plus que vous ne voulez le dire. L'autre aspect très important de la vie d'un éditeur sont les relations avec le milieu littéraire. Oui. Très vite, vos livres, qui sont des livres difficiles, souvent considérés comme difficiles, vont recevoir des prix, ce qui est tout à fait étonnant. Vont être même reçus dans certains milieux littéraires critiques. Donc, vous n'êtes pas du tout seul. Vous savez, en tout cas, comment investir ce milieu, ou du moins faire parler de vous.
Bah, je ne sais pas, parce qu'en réalité, oui, vous avez raison, il y a eu des... Remarquez que certains de ces prix sont des prix presque paradoxaux. Quand Robert Pinget a le prix Femina, je dois dire que j'en suis le premier surpris et je n'ai pas fait grand-chose pour qu'il l'ait, n'est-ce pas ? C'est Dominique Rollin qui a fait un très bon travail parce qu'elle aimait beaucoup ce qu'il faisait. Et à elle toute seule, elle lui a fait avoir, d'ailleurs après son départ à elle du prix, elle lui a fait avoir le prix Femina. Et puis... Bon, mais regardez, Samuel Beckett n'a eu comme prix littéraire, en quelque sorte, que le prix Nobel. Il a fallu que ça soit...
Oui, mais il a eu rapidement une critique universitaire, beaucoup de gens qui ont parlé
de
lui.
Oui, c'est vrai. Oui, mais ça, les...
Alors, comment vous y preniez, même parce que vous avez même lancé avec Robrier le grand coup du nouveau roman, qui était,
Coup médiatique. Beaucoup plus fort que moi dans ce domaine. C'est vrai qu'Alain a été quelqu'un qui sortait, qui voyait les gens, ce que je ne fais pas, moi, qui allait dans les cocktails, qui était capable, par exemple, d'avoir des conversation avec Émile Henriot à l'époque, qui était chroniqueur au Monde, et qui, sans être un fanatique du nouveau roman, était finalement le premier à utiliser le terme nouveau roman à propos de la publication de La Jalousie de Robrier et de Tropisme de Nathalie Sarraute. Bon, et c'est sûrement à Alain que je le dois, enfin, ou que nous le devons.
Alors, ça vous a embarrassé, cette soudaine renommée, le fait que brutalement votre téléphone a dû se mettre à retentir, les gens à courir, les photographes?
On fait avec, je veux dire, ça serait tout de même, là aussi, lamentable de ma part d'avoir l'air de trouver ça moche. Non, encore une fois, c'est le principe de la marine à voile, hein. Je veux dire, on profite des vents, même s'ils vont pas exactement dans votre direction, on essaye de s'arranger pour qu'ils vous fassent avancer, les uns et les autres, et ça peut être des choses complètement différentes. Et un prix littéraire, pour moi, ça n'est pas véritablement une consécration littéraire, parce que beaucoup des jurys sont des gens qui... Enfin, des jurés, en tout cas, ont des conceptions qui ne sont pas du tout les miennes en matière de littérature, mais s'il y a un prix, pourquoi ne pas en profiter ? Pour faire connaître un écrivain, pour le faire lire et pourquoi pas aussi pour le vendre.
Vous pensez donc que dans les années 1950, au fur et à mesure que Robrier développe ce qui va devenir le nouveau roman, que de nouveaux auteurs arrivent, et non des moindres, vous avez déjà cité le nom de Pinget, bientôt le nom de Butor qu'on pourra évoquer, enfin toute cette glorieuse...
Avant Pinget même.
Toute cette glorieuse équipe. Est-ce que vous avez à ce moment-là l'idée que vous avez une conception de la littérature, Jérôme Lindon ?
On a tous une conception de la littérature, vous en avez une. Non, je veux dire, on a tous des goûts, mais pour autant, on ne prétend pas que c'est la seule conception. Mais en effet, on essaye à sa place de faire son travail convenablement.
Il y a même une époque où il y avait un certain systématisme qui régnait. Sartre avait une théorie de la littérature, Rob Grier a essayé de noir une, Nathalie Sarraute aussi.
Oui, mais c'est vrai que...
Vous auriez pu écrire un essai sur les lois de la littérature ?
Non, mais Alain l'a écrit. Je veux dire, c'était... Mais en même temps, Alain ne représentait... finalement, que lui-même dans ses conceptions. Et d'ailleurs, même lui, il n'avait aucun mal à changer même ses conceptions avec le temps, ce qui était très sain en soi. Non, on n'a jamais été, je crois, assez bête pour penser que nous incarnions une forme rigide de la littérature hors de laquelle il n'y avait pas de salut. D'ailleurs, entre nous soit dit, moi j'ai toujours été frappé, non pas par les ressemblances, mais par les différences entre les écrivains que nous publions. Quel rapport entre Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, Claude Simon, Alain Robrier, Samuel Beckett, Robert Pinget, etc. Moi je ne voyais que les différences. Simplement, tous ces écrivains me plaisaient, leurs livres me plaisaient énormément. Et puis c'est tout. Mais je vous dis, J'étais enchanté qu'on parle du nouveau roman et qu'on homogénéise extérieurement tout ça, mais je n'étais pas dupe. Pour moi, c'était des écrivains complètement différents. Et si c'était ressemblé, ça m'aurait paru pas intéressant du tout.
C'est même un peu aussi à l'époque, on commence à dire, c'est le petit clan des éditions de Minuit. Ils sont doctrinaires, ils sont dogmatiques. Ouais. Ils veulent que des tout petits livres avec des tout petites phrases ou des phrases très compliquées.
Oui, alors justement, on pouvait.
Ou les deux.
Mais vous savez, nouveau roman, ça ne veut rien dire. À toutes les époques, le roman se renouvelle. Par conséquent, on avait pris cette étiquette-là parce que c'était le thème de l'article de Émile Henriot dont je parlais tout à l'heure. Mais en réalité, il nous plaisait d'autant plus qu'il n'avait aucune signification précise. Non, c'était la littérature telle qu'elle nous l'aimions, quoi, à ce moment-là, et comme je continue d'aimer, effectivement.
Mais à côté de ça, c'est tout de même aussi à la même époque que vous avez toujours développé aussi une activité moins importante, certes aux éditions de Minuit, mais une activité constante d'essais, de réflexion.
Oui. Bah oui, mais comme je vous l'ai dit, vous voyez, Maurice Blanchot et Georges Bataille étaient entrés aux éditions de Minuit dans les années, la fin des années 40. On a effectivement, bon, à partir de plus tard, il y a eu les collections de sciences humaines et de philosophie, on en parlera peut-être une autre fois. Puis il y a eu la politique avec la guerre d'Algérie. Il y a eu des tas de choses qui sont venues, mais encore une fois, elles venaient, c'était pas moi qui allais les chercher.
Mais vous aviez un certain goût pour laisser la philosophie ou c'est vraiment l'écriture qui vous plaît d'abord ?
C'est l'écriture qui me plaît d'abord. Je ne me sens pas du tout compétent et j'ai eu la chance là aussi d'être entouré par des gens qui étaient infiniment plus compétents que moi. D'abord, il y a eu des directeurs de collection. Il y a eu Jean-Pierre, Costas Axelos, Pierre Bourdieu, etc. Mais aujourd'hui, quelqu'un comme Irène me paraît beaucoup plus qualifié que moi pour devenir un éditeur de penser plus
enfin vous c'est même le contact spontané avec la phrase en général c'est la première phrase ouvrez le manuscrit
ça serait très prétentieux de dire qu'on voit dès la première phrase ce qui se passe, mais dans certains cas oui, dans certains cas ça peut être ça. Je vous ai cité exprès le cas de Molloy parce que c'est vrai que je me rappelle très bien que ça a été ça tout de suite. Il n'y avait pas besoin de finir le livre pour savoir que j'avais affaire à une œuvre majeure du siècle. Mais dans d'autres cas, non, c'est pas si évident que ça, bien sûr.
Est-ce que, comme nous sommes tous parfois des critiques paresseux, et qu'on sait qu'entre paresseux, on peut toujours s'entendre, est-ce que vous pouvez tout de même donner un conseil à un critique, justement, pour essayer de voir comment faire, pour voir très vite si on a envie vraiment de lire un livre ou pas ? Je ne dis pas s'il est bon ou mauvais, non. Si on a envie de le lire ou pas.
Je ne sais pas donner de conseils.
Vous gardez votre critique.
Non, c'est pas ça, je sais pas. C'est que, comme quand un écrivain me demande qu'est-ce que vous me conseillez de faire, je dis je ne sais pas. En général, c'est vous l'écrivain. Moi, je suis juste le lecteur. Mais je crois qu'on a chacun sa conception des choses et on est tous différents les uns des autres.
Donc, vous ouvrez, vous regardez la première page?
Mais maintenant, de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est même, j'ai la chance que le livre a déjà été lu par Irène, de toute façon, donc ça me prive peut-être de la possibilité d'en lire 20 par jour, mais ça me permet en même temps de ne lire que des choses qui sont déjà fort intéressantes. Oui, oui en effet, on peut voir très vite, je crois. Il y a un ton, il y a une musique. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, je comprends très bien qu'il y a 36 autres façons de fonctionner et sans doute meilleures.
Vous pensez d'une certaine façon que l'erreur de rythme, l'erreur de vocabulaire,
il y a des fautes qui trompent pas. Oui,
et c'est assez radical.
Radical. Non, en tout cas, il y a des menaces. Arranger les choses. Mais quand ce que nous disions d'ailleurs avec Irène récemment, il y a de ces fautes, en effet, qui ne sont pas véniels. On se dit quelqu'un qui peut, ayant tapé, retapé son manuscrit et l'envoyant à un éditeur, laisser une telle chose comme ça dès la première page. Je ne dis pas que ce sera mauvais. Je dis que c'est pas pour nous.
Oui, je parle. Le soleil brillait sur la maison de Madame Dupuis. Ah, ça dit-elle, peut... et la porte s'ouvrit. Non.
Ouais, ça c'est pas très mauvais. Si loin,
ouais. D'accord, on a déjà été beaucoup trop loin.
Mais enfin, ça peut être entre guillemets. Et c'est... Alors, c'est autre chose. Il faut vérifier ça encore. Quelquefois, ça peut être un pastiche, en effet, qui n'apparaît que quelques pages plus loin. Mais enfin, en général, c'est pas le cas.
Jérôme Lindon s'entretenait avec Jean-Maurice de Montrémy. Réalisation, Marie-Andrée Arminot.
Cet entretien avec Jérôme Lindon a été diffusé la première fois le 18 octobre 1994 sur France Culture. À suivre.